Amen. Je vais remettre ce temps de message dans la prière. Seigneur, je te prie que toutes nos pensées continuent de se tourner vers toi, maintenant. S'il y a des pensées qui nous agitent, qui s'agitent en nous, qui nous préoccupent, dans le nom de Jésus maintenant, que ces pensées puissent se taire et que les yeux de notre cœur se tournent vers toi. Que les yeux de ton cœur se tournent vers ton Sauveur et ton Seigneur ce matin. Seigneur, c'est ton esprit qui vient toucher notre cœur par ta puissance. Ce ne sont pas nos paroles, c'est toi. Veuille, Saint-Esprit, toucher nos cœurs ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Amen. Amen. Le monde va-t-il vers plus de paix? On peut se poser la question quand on voit les deux dirigeants de la Corée, Corée du Nord et Corée du Sud, qui se sont retrouvés dernièrement pour s'engager à marcher ensemble vers la paix. Une prochaine rencontre est prévue entre Kim Jong-un et Donald Trump, et a priori c'est en bonne voie de se faire. Voilà, donc... Le monde marche-t-il vers la paix? En même temps, il y a ce passage dans la Bible qui nous dit, dans Thessaloniciens, c'est quand les hommes proclameront paix et sécurité, que là, le Seigneur Jésus viendra et jugera ce monde. De quelle paix est-il question? Alors bien sûr, je ne veux pas jouer les rabat-joie. Il faut encourager tout cela, tous ces mouvements qui se passent. Le monde cherche la paix. Mais de quelle paix s'agit-il? Est-ce vraiment la paix dont l'homme a besoin? Et cette paix que le monde cherche, ne vient-elle pas quelque part cacher la véritable paix que le monde, dont le monde a besoin? Quand on voit comment les choses se passent aussi, on voit un monde effectivement qui essaye de s'en sortir, mais qui est aux prises aussi avec des problèmes qui sont importants, des problématiques, on peut se dire, insolubles, voire des problèmes grandissants. Dernièrement, il y a eu une recherche inédite menée par des chercheurs sur l'ensemble du monde qui se sont réunis pour pouvoir étudier l'écart entre l'évolution de l'écart entre les revenus dans le monde, entre les revenus les plus importants et les revenus les plus petits. Et il se trouve que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres, et la science vient quelque part l'attester au travers de cette recherche. Dernièrement aussi, je discutais avec un pompier en province française qui me disait que leur taux d'intervention a augmenté de 30% en un an pour des problèmes sociaux, surtout pour les problèmes sociaux, parce qu'il y a de plus en plus de précarité là ici en France. Mais il y a aussi de plus en plus de problèmes avec ce qui se passe avec l'afflux de migrants. Ça vient entraîner des problèmes sociaux. Et là, le problème, il n'est pas seulement français, il n'est pas seulement européen, il est mondial. Donc quand on voit tout cela, on peut se poser la question. D'autant plus quand on lit la Bible, quand on lit la parole, et qu'on voit notamment des textes dans le Deutéronome, par exemple, à la fin du Deutéronome, Deutéronome 28, où il est question des bénédictions et des malédictions. Et quand vous regardez tout ce qui se passe dans une société qui évacue Dieu, parce que c'est ce qui se passe dans les malédictions finalement, c'est une société humaine sans Dieu. Et Dieu est en train de dire à Israël, voilà ce qui va se passer si tu fais sans moi, si tu me mets de côté, si tu m'oublies. Et effectivement, quand on met en parallèle toutes ces conséquences avec ce que l'on voit se passer dans notre monde actuel, le rapport est quand même troublant. Le fond du problème, tout ce qui se passe dans ce monde, quel est le fond du problème? Le fond du problème n'est-il pas le cœur de l'homme? Ce qui se passe dans le cœur de l'homme? Un cœur que je peux orienter vers la vie ou que je peux orienter vers la mort. Et là, ça relève de mon choix. Et ce choix, c'est un choix que Dieu va poser devant Israël au travers de Moïse. Et c'est ce passage sur lequel je vais revenir ce matin. Ce choix, c'est un choix que Moïse pose devant le peuple d'Israël, tout à la fin d'un long discours qu'il a fait dans le Deutéronome. En fait, c'est juste avant de mourir. Ce discours, c'est comme un testament. Et dans ce discours, il revient, il rappelle tout ce qui s'est passé pour Israël depuis la délivrance d'Égypte jusqu'à tout ce que Israël a vécu dans le désert, les interventions de Dieu qui l'ont sauvé maintes et maintes fois, les transgressions aussi d'Israël qui n'a pas cessé de tourner le dos à Dieu pour ensuite revenir, grâce à l'intercession de Moïse d'ailleurs. Il rappelle la loi au travers de l'essentiel de la loi qui a été donnée à Israël et que Dieu engage Israël à suivre pour vivre. Et dans ce monde, la question m'est posée. Moi, qu'est-ce que je choisis? Dans quelle mesure j'ai choisi la vie? Dans quelle mesure j'ai quitté des chemins de mort? Comment est-ce que moi je me situe en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que croyant, en tant que chrétien? Comment nous situons en tant qu'église dans ce monde? Alors on va aller lire ce texte qui se trouve dans Deutéronome 30 et qui se commence à partir du verset 15. Et le titre du message est « Vivre est un choix ». Et je vais, ça va être une prédication que je vais faire en deux fois. Vous aurez la première partie aujourd'hui et la seconde partie la prochaine dimanche prochain. Vivre est un choix. Donc on est dans Deutéronome, le chapitre 30, au verset 15. Et voilà ce que dit Moïse. Voilà ce que Dieu dit à Israël au travers de Moïse. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, c'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. Pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Moïse met donc Israël devant un choix, la vie et le bien ou la mort et le mal. Et il lui dit immédiatement après, c'est si tu marches dans les commandements de Dieu, dans ses prescriptions, dans ses ordonnances, dans ses préceptes, que tu vas vivre et que tu vas prospérer. Voilà ce qu'il commande, ce qu'il prescrit. Comme un médecin va venir prescrire un médicament qui est censé nous redonner la santé. Jésus, de même, quand il dit « ce que je vous commande », c'est aussi « ce que je vous prescris », « ce que je vous prescris », c'est de vous aimer les uns les autres. Là, Jésus dit le commandement par lequel la société humaine peut vivre véritablement et la vie se développer. selon Dieu. Tous ces commandements, toutes ces lois, toutes ces prescriptions, qui sont comme des médicaments, on peut les appeler aussi des ordres de vie. Ce sont des ordres de vie. Dieu nous ordonne de vivre. Il nous fait cette ordonnance. Des ordres de vie qui, en fait, on pourrait les imager comme un poteau indicateur. Un poteau indicateur qui se trouve à un carrefour d'un chemin où il y a deux directions opposées. Un poteau indicateur avec deux pancartes. Une pancarte qui indique la vie et le bien, et une pancarte qui indique la mort et le mal. Toutes ces ordres de vie, ce sont comme ces poteaux indicateurs. On pourrait aussi imaginer une sorte de porte qui est ouverte dans les deux sens, avec un voyant qui s'allume en rouge quand vous allez, vous prenez la porte direction mort, puis un voyant qui s'allume en vert quand vous prenez direction vie. Et tous ces ordres de vie, comme on l'avait vu dans le psaume 19, ils structurent la vie dans l'univers. Ces ordres de vie, on peut les voir quand on regarde comment fonctionne la nature, la création. Comment nous devons fonctionner, nous. Comment nos relations seraient censées fonctionner. On voit aussi quand ça marche pas, justement, quand ça dysfonctionne. Et ces ordres de vie, bien sûr, où est-ce qu'on les trouve? Ben, on les trouve dans la Bible. On les trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un don. Aussi, la Bible, c'est un don pour nous indiquer comment vivre véritablement dans ce monde. Et finalement, ces ordres de vie dans la parole, on les trouve sous deux formes. Il y a une forme positive. Par exemple, tu honoreras ton père et ta mère. Et c'est comme ça que tu vivras longtemps. Et il y a une forme positive qui ouvre vers un chemin de vie. Et puis, il y a une forme négative. Tu ne tueras point. Qui là, énonce un stop. C'est l'endroit à ne pas franchir. C'est un panneau stop. C'est un interdit. Mais un interdit qui est là pour nous aider à nous construire, pour nous structurer. Ça veut dire quoi? Tu ne tueras point, ça veut dire tu n'ôteras pas la vie. C'est ça le stop. Tu ne porteras pas atteinte à la vie, jusqu'à l'ôter. Et ces ordres de vie, on peut les retrouver sous l'une ou l'autre des formes, ou même sous les deux. Mais à chaque fois, il y a ces deux facettes. Et par exemple, tu ne tueras point, il faut aussi l'entendre sous sa forme positive. Tu ne tueras point, ça veut dire tu favoriseras la vie. Tu protégeras la vie. Il ne s'agit pas seulement de ne pas ôter la vie. Il s'agit de marcher dans l'autre sens, toujours plus loin. Donc, Dieu ordonne la vie. Dans tous ces ordres de vie, il ordonne la vie, mais il me laisse le choix. C'est ce que Moïse dit à Israël. Tu peux choisir de vivre, tu peux choisir de mourir, mais moi personnellement, je préférerais que tu vives, alors choisis la vie. Choisis, c'est un ordre. Mais tu as le choix. C'est un peu contradictoire. Dieu nous laisse le choix tout en nous ordonnant la vie. Et finalement, ce qu'on retrouve dans ce texte, c'est ce qui est à la base de toutes les lois de Dieu, de tous les ordres de vie de Dieu, mais en lui-même, c'est un ordre de vie. C'est un ordre de vie que l'on rencontre tous dans notre existence, au tout début de notre existence. Cet ordre de vie, il est donné à Israël. Tu peux choisir de vivre, tu peux choisir de mourir, mais choisis de vivre, et nous le rencontrons dès le moment où nous naissons. Et tout au long de notre existence, on va rencontrer cet ordre de vie. Tu peux choisir de vivre, tu peux choisir de mourir, mais choisis la vie. Et si on regarde bien ce texte, en quoi consiste ce choix ? J'ai relevé 5 choses en quoi ce choix consiste. La première des choses, Dieu dit « choisis ». Et c'est à qui il le dit ? Ben c'est à moi. Choisis, c'est moi que ça concerne. Il ne le dit pas à mon voisin, à ma voisine. Il le dit à moi, choisis. C'est un choix que seul moi je peux faire. Seul moi je peux choisir la vie. Même Dieu ne peut pas choisir à ma place. Et vous avez plein d'exemples dans la parole qui le montrent. Par exemple, dans la parabole du fils prodigue, le père ne peut pas choisir à la place du fils aîné de sortir de l'amertume, d'accueillir son frère plus jeune dans la joie, quoi qu'il ait fait, et de pardonner. Jésus ne peut pas choisir à la place de Marthe, qui aimerait bien être à la place de sa sœur, mais en même temps qui a envie de servir Jésus en faisant des choses, en tenant bien la maison, en préparant le repas. Et Jésus lui dit, mais choisis. C'est pas un problème que tu me serves comme ça, mais sois pas tiraillé comme ça dans ton cœur. Choisis la bonne part. Jésus ne peut pas choisir à la place de cet infirme à Bethesda, qui est dans la piscine de Bethesda, qui est au bord de la piscine, et qui n'attend qu'une chose, c'est la guérison. Sauf qu'il peut pas aller lui-même dans l'eau. Et quand Jésus vient le voir, ben, c'est évident ce dont il a besoin. C'est de guérir. Et pourtant, Jésus vient lui demander, que veux-tu que je fasse? Même Dieu ne peut pas choisir à ma place. C'est moi qui choisis. Le deuxième point, c'est que ce choix de vivre, le texte dit, si ton cœur se détourne, si ton cœur, le cœur, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est le centre de notre vie. Ça veut dire que ce choix, il se passe dans le cœur. Ce choix, c'est un acte intérieur, c'est une décision intérieure qu'on prend au plus profond de notre cœur, qui est une réponse à l'appel à la vie que Dieu vient mettre en nous. Et qui s'exprime sous la forme des désirs authentiques que l'on a en nous, par lesquels on sent que si on accomplit ces désirs, on va vraiment être vivant. Qu'est-ce que tu sens qui vibre dans ton cœur? C'est quoi que tu sens qui construit ta vie, qui édifie ta vie, qui te rend vivant? Cultiver cela, c'est choisir la vie. Est-ce que c'est la louange? Est-ce que c'est dans l'église? Est-ce que c'est un service à certaines personnes? Les jeunes? Les aînés? Est-ce que c'est dans ton travail? C'est en faisant certaines choses? Qu'est-ce qui vibre dans ton cœur? C'est là qu'est le choix de vivre. Ça correspond à notre vocation, à notre appel. La troisième chose, c'est Moïse dit, aujourd'hui, je prends à témoin le ciel et la terre. Aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'il choisit, qu'il s'agit de choisir. Choisir la vie, c'est un choix qui n'attend pas. Pourquoi est-ce que Jésus guérit le jour du Shabbat? Pourquoi est-ce qu'il guérit des personnes alors qu'il s'attire les foudres des autorités religieuses? Pour des guérisons, et ça pourrait attendre le lendemain, hein. On n'est pas à un jour près. Et pourtant, il choisit, il fait exprès. Hein. Il choisit, croyez-moi, il choisit de guérir ce jour-là. C'est justement ça qu'il nous dit. La vie, ça n'attend pas. Choisir la vie, ça n'attend pas. C'est maintenant. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans une heure. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Le choix de la vie, c'est maintenant. Une quatrième chose qu'on peut voir dans dans ce texte toujours. Moïse dit donc, si tu marches dans ses voies, si tu observes ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances, choisir la vie comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a ordonné, selon ses critères, selon ses valeurs, selon ses ordres de vie. Pas selon les miens, selon les siens. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est même pas évident du tout. La Bible dit par exemple, Jésus dit par exemple, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et bien sûr, il y a des circonstances qu'on rencontre qui font que ça peut être difficile de rester en couple, même des couples chrétiens. Mais pourtant, c'est ce que dit Dieu. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et c'est vrai qu'il y a des choses difficiles. Il y a des fois, en particulier chez les chrétiens, des couples qui ne tiennent que parce qu'ils sont engagés l'un envers l'autre. Mais il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus même de bienveillance. Il n'y a plus de désir, là, c'est clair. Mais il n'y a même plus de bienveillance. Et pourtant, il y a un chemin de vie dans le couple. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. À partir de cet engagement, je peux revivre. Je peux être de nouveau bienveillant envers l'autre. Je peux de nouveau le désirer. Il y a un chemin de vie. Ce sont ces trois choses qui font qu'on est attaché l'un à l'autre. Et c'est la volonté de Dieu que ça se reconstruise. Il y a un chemin de vie. Mais moi, qu'est-ce que je décide? Pas mon conjoint. Moi, qu'est-ce que je décide? Quelle est ma part? Quelle est ma part? Dieu me demande de faire ma part. La part de mon conjoint, de ma conjointe, ça concerne lui, elle et Dieu. Pas moi. Moi, Dieu me demande de faire ma part, rien que ma part, mais toute ma part. Ça, c'est un ordre de vie. La Bible dit aussi, tu honoreras ton père et ta mère. Et vous remarquerez que donc tu honoreras ton père et ta mère, ça veut dire tu respecteras ton père et ta mère. Et c'est comme ça que tu vivras longtemps. Ça veut dire, vous remarquerez que la Bible ne dit pas tu aimeras ton père et ta mère. Elle dit tu respecteras. Alors par contre, elle dit tu aimeras ton Dieu. Parce que Dieu, c'est clair, on peut l'aimer sans problème. Il est complètement bon, il est éternellement bon. Après, il faut le croire. Mais la Bible dit, tu respecteras ton père et ta mère. Et comment on fait pour respecter un père ou une mère quand celui-ci a été maltraitant avec soi? Quand on a même commencé la vie comme ça? Comment est-ce qu'on fait même pour l'aimer? Alors, ne parlons pas de déjà le respecter, mais comment on fait pour l'aimer? Et pourtant, même ce parent-là, si je ne le respecte pas, je me coupe de la vie de Dieu. Je marche sur un chemin de mort. Parce qu'au travers de ce parent, Dieu m'a donné la vie. Il m'a donné la vie physique. Il m'a donné aussi un nom. Ce parent, il m'a donné un nom, une place dans la société. Il m'a donné une filiation. Je suis fils d'eux. Et ça, c'est aussi la vie. C'est la vie de l'âme, ça. Et bien sûr, il m'a donné aussi, avec ce parent, enfin il m'a donné, ou le parent m'a donné, des comportements qui sont justes et des comportements qui ne sont pas justes. Des comportements même qui peuvent être mauvais, qui sont un mauvais héritage. Mais si je rejette ce parent en ne le respectant pas, c'est comme jeter le bébé avec l'eau du bain. Je rejette la vie qui va avec et je me coupe de la vie. Et honorer son père et sa mère, ça vient d'un mot qui signifie poids, kavod. Ça veut dire tu pèseras ton père et ta mère, tu feras le tri. Retiens la vie, parce que moi j'ai décidé de te donner la vie au travers de lui après voilà, il est responsable de ses actes devant moi. Et là, c'est la justice de Dieu. Et par contre, tu peux rejeter, effectivement, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas juste. Là, le choix de vivre, il se fait selon la manière dont Dieu a ordonné la vie, a voulu la vie. Et une dernière chose, un dernier point sur en quoi consiste ce choix de vivre. Bien sûr, choisir la vie, c'est choisir la vie, quelles que soient les circonstances que je rencontre. Quelles que soient les circonstances. Même les circonstances difficiles. Même les difficultés. Et des difficultés, je peux en vivre tout au début de la vie. Il y en a qui ont voilà, une naissance même traumatisante, une petite enfance traumatisante. Mais aussi, tout au long de l'existence, on va rencontrer des difficultés. Et ces difficultés sont là pourquoi ? Elles sont là pour donner plus de force à cette vie qui nous est donnée. Et souvent, ça bataille entre choisir la vie, choisir la mort quand on est face à ces difficultés. Mais c'est comme lorsque vous prenez un arbre et que vous allez couper les branches, couper des branches, pas toutes, hein, couper des branches pour que la sève, elle vienne beaucoup plus dans le tronc et qu'elle donne encore plus de force et de vitalité à l'arbre. C'est à cela que servent ces difficultés. C'est du moins comme cela que moi, je peux m'en servir. Plutôt que de les fuir, plutôt que de les subir, plutôt que de me résigner, toutes ces circonstances, ces difficultés seront toujours l'occasion de me positionner pour la vie ou pour la mort, de choisir la vie ou de choisir la mort. Choisir la vie, c'est refuser toute connivence avec la mort. Tout lien avec la mort, c'est ça, choisir la vie. Quelles que soient les circonstances, qu'est-ce que tu choisis ? Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui ? Peut-être tu es face à certaines circonstances et tu es face à ce choix. Continuellement, on est face à ce choix. Qu'est-ce que tu choisis ? Qu'est-ce que je choisis ? J'ai un modèle, j'ai un exemple. Jésus a refusé toute connivence avec la mort. Il n'a pas laissé un bout d'ongle. Rien sur le terrain de la mort. Rien du tout. Il a combattu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Choisir la vie, c'est choisir de faire comme Jésus. C'est choisir de suivre son exemple. Même si la mort se présente devant moi sous diverses formes, Jésus a combattu jusqu'au bout. Et pourquoi est-ce qu'il a vaincu ? Parce qu'il est Dieu ? Parce qu'il avait la capacité de le faire ? Non. Jésus s'est dépouillé de tout. Il s'est dépouillé de tout. Jésus a vaincu la mort parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Il a vaincu la mort pour la vie parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Et c'est ça l'exemple qu'il me donne. Il me dit, c'est possible. C'est possible si tu fais le choix de t'appuyer sur Dieu. Mais ça, seulement toi peux faire ce choix. Pour tout ce qui concerne ta vie, tous les choix dans ta vie. Seulement toi peux faire ce choix. Choisir la vie, c'est choisir de suivre l'exemple de Jésus. Seulement toi peux faire ce choix. Mais moi, si tu me choisis, moi, je te donne la capacité d'honorer ce choix. Je te donne la capacité de vivre ce choix. Parce que Jésus n'est pas seulement l'exemple. Jésus est la vie. Choisir la vie, c'est choisir Jésus. Choisir Jésus, c'est choisir la vie. C'est qui le poteau indicateur ? Qui indique la mort et la vie. C'est Jésus. C'est qui la porte qui est ouverte dans un sens ou dans l'autre? C'est Jésus. Il me laisse la liberté de choisir le sens dans lequel je veux aller. Mais il m'encourage vers la vie. C'est le voyant vert qui s'allume. C'est qui tous ces ordres de vie de Dieu? C'est Jésus. Tous ces ordres de vie qui sont dans la parole, c'est Jésus. Et ce sont ces ordres de vie qui viennent en moi quand je choisis d'accueillir Jésus. Et continuellement, quand je suis face à un choix de vie ou de mort, la question qui m'est posée, c'est: est-ce que tu choisis Jésus? Alors, je vais terminer là-dessus. Nous sommes, il ne faut pas se voiler la face, nous sommes dans un monde qui est désordonné et qui est mourant. C'est le monde dans lequel on est. Mais dans ce monde, je peux choisir la vie. Et je peux choisir la vie pour l'éternité. Et ce matin, si tu n'as pas accueilli Jésus, si tu ne connais pas Jésus, tu peux choisir Jésus, qui est mort et qui est ressuscité, qui est là avec nous pour l'éternité. Il est là chaque jour et il est là, il se présente à ta vie. Il veut être ton Seigneur et ton Sauveur et ton Seigneur. Il toque à la porte de ton cœur. Il te laisse libre de lui ouvrir. Mais lui peut te réordonner dans le sens de la vie si ta vie est un désordre. Alors accueille-le, accueille-le. Ouvre la porte de ton cœur. Choisis de marcher dans la vie, vers la vie. Et il y a plus que cela encore. Il y a plus que cela encore, parce que dans ce monde qui est désordonné et mourant, je peux non seulement choisir la vie, mais je peux choisir d'être une source de vie. D'être une source de vie à mon tour. Et je suis une source de vie en laissant Jésus me réordonner, en allant à la recherche de ces ordres de vie qui sont dans la parole, en me nourrissant de la parole. Pour que ces ordres de vie viennent en moi, et ça c'est spirituel, et ça réordonne ma vie. C'est notre responsabilité aussi, en tant que chrétien, c'est notre responsabilité en tant qu'église, c'est notre responsabilité de travailler à qui nous sommes, d'ordonner nos vies, c'est notre responsabilité de travailler à nos couples, c'est notre responsabilité de travailler à nos familles, pour que nous soyons une source de vie. Parce que dans ce monde qui se désordonne de plus en plus, qu'est-ce qui va se passer? Des personnes vont venir chercher la vie. Où est-ce qu'ils vont pouvoir la trouver? Ici, oui. Ici, à partir du moment où nous marchons dans ce chemin. Est-ce que nous voulons que la vie en nous, entre nous, dans l'Église, se développe selon les ordres de Dieu? Bien sûr, hein, on est toujours dans ce chemin. Mais est-ce que nous voulons aller plus loin là-dedans? Ça fait sept ans qu'on cherche un local, ici. Marcher dans le sens de la vie, ou ce qui peut se manifester sous la forme de la mort, c'est aussi ce qui bloque la vie. C'est ce qui empêche le développement de la vie. Et je crois que trouver un local, je sais que tous ne sont pas dans cette idée-là, mais je crois que c'est un des chemins pour l'Église. C'est un des chemins pour l'Église de réveil pour pouvoir se développer, pour que la vie se développe beaucoup plus. Pour que nous soyons justement une source de vie. Il y a la sanctification, il y a le travail à l'unité, et ça il faut le faire de concert. Mais trouver un local, c'est un des moyens qui va faire que nous allons pouvoir être encore plus cette source de vie dans cette ville, pour les gens qui nous entourent. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ça fait pas la première fois qu'on en parle dans le conseil, puis ça fait des années, mais moi je reçois de plus en plus la conviction que c'est vraiment dans ce sens qu'il faut marcher. Et là, j'arrive au moment où, personnellement, je vais me donner les moyens de le faire. Mais voilà, c'est pas pour être applaudi hein, que je dis ça. Mais c'est vraiment dans le sens où, voilà, il y a quelque chose de décisif là. Et nous sommes appelés à marcher ensemble dans cette direction. Nous sommes appelés à nous développer, à développer cette vie, à être cette source de vie. Alors, tout au long des prédications qui vont suivre, on va aller à la recherche justement de ces ordres de vie dans la parole pour pouvoir s'y confronter et pour pouvoir marcher dans le bon sens, là où ça marche pas dans le bon sens. Quel que soit le point, le terrain dans nos vies. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir faire. Et c'est le Seigneur qui nous demande de le faire, qui nous ordonne de le faire, mais qui nous laisse le choix. Alors, que choisis-tu ? Qu'est-ce que je choisis ? Que choisissons-nous ? Prions. Seigneur, tu es la vie. Et tu vois comment nos vies, même quand on te connaît, peuvent être dans le désordre et peuvent être loin de te refléter. Bien sûr, c'est un chemin. C'est un chemin et tu nous appelles pas à être là parfait, là maintenant. Tu nous appelles à te ressembler. Et Seigneur, je te prie qu'on ne laisse aucun terrain. Aucune bribe de terre, rien du tout, à l'ennemi, à la mort. Je te prie de parler à notre cœur. Je te remercie, Seigneur, de nous faire désirer cette vie que tu es pleinement, encore plus de toi. Je te remercie, Seigneur, de nous faire désirer d'être ces sources de vie que nous sommes déjà, mais de l'être encore plus, Seigneur. Merci de réordonner, de remettre les poteaux indicateurs, de remettre les bonnes balises et que ça puisse suivre ce cours et être un flot de plus en plus puissant. Parce que c'est toi qui le canalise. Je te remercie Seigneur de rencontrer chacun d'entre nous maintenant. À l'occasion de ce repas que l'on va prendre de cette Sainte Cène, merci Seigneur de parler à nos cœurs chacun. Tu sais chacun où on en est. Et Seigneur, que nous puissions être une source d'encouragement les uns avec les autres. Parce que la vie que tu veux, c'est l'amour. Mais pas l'amour n'importe comment. Merci, merci Seigneur Jésus de nous conduire vers qui tu es. Amen.